au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Ah, quelle magnifique journée de terrasse, les amis. 25 degrés actuellement au cœur de Lanaudière. Nous sommes mardi 2 juin à l'émission aujourd'hui. Jannick Cormier, vice-présidente des restaurants, en fait, de Restaurants Canada. On veut éliminer toutes les taxes sur les repas au restaurant. Ça serait une bonne nouvelle. Avec Jacques Plante, on parle transport en commun et infrastructure Ottawa qui envoie 10 milliards en 10 ans à Québec. Avec nous également Guillaume Tremblay, maire de Mascouche. On va parler entre autres de développement économique et d'infrastructure. Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, sera là. Il sera question du rond-point du jour, une route verte trop achalandée. Mais pour débuter l'émission, la décision de la Scierie Saint-Michel de se placer sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers suscite de l'inquiétude, non seulement là, au sein de la communauté et des salariés de l'entreprise, mais évidemment ailleurs, les fournisseurs là, sont aussi affectés par la perte temporaire ou, selon le cas, la perte permanente de leur marché, de leur contrat. François Morin en discute avec le directeur général de la Fédération des producteurs forestiers, Vincent Miville.
Écoutez, je vous dirais que chaque mauvaise annonce économique, chaque fermeture d'usine, même des ralentissements ou autres sont toujours hyper inquiétants au niveau du secteur. C'est inquiétant ou c'est dramatique, évidemment, pour les employés de ces usines-là, de toute évidence. C'est inquiétant pour tous les investisseurs au niveau du secteur, mais également tous les gens qui travaillent dans l'écosystème industriel, là, qu'on parle des gens au niveau sectoriel, mais également des gens qui œuvrent au niveau de l'industrie, on pourrait dire, de l'aménagement et de la récolte de bois. C'est tout autant dramatique, je vous dirais, pour des propriétaires forestiers, des producteurs de bois qui aménagent leur boisé, qui récoltent du bois, qui génèrent des revenus avec leur boisé et qui, du jour au lendemain, se trouvent sans marché et même parfois sans avec des revenus qui ne seront plus générés. Donc c'est hyper inquiétant pour tout le monde.
Concernant Saint-Michel-des-Saints, on est dans l'attente d'une décision de la Cour supérieure, donc peut-être qu'il y aura un baume là, sur la plaie et que certains de vos membres vont pouvoir continuer à approvisionner justement l'usine.
Écoutez, peut-être, mais c'est sûr que ça crée un peu une onde de choc pour tout le monde, ce genre de situation-là. Faudra voir la suite des choses, mais on se cachera pas que c'est un peu parfois une relation de contrainte aussi hein, pour les producteurs forestiers qui habitent ou dont leurs lots boisés sont situés ou qui entoure une industrie en particulier ou une usine en particulier, c'est important que les deux chaînes de cette filière-là fonctionnent. C'est-à-dire que pour à la fois que l'usine soit en mesure d'acheter du bois des producteurs, pour que les producteurs soient en mesure de vivre de cet aménagement forestier-là et de cette vente de bois. Donc on souhaite évidemment le mieux possible pour Scierie Saint-Michel, possiblement soit une réouverture, un redémarrage, en tout cas une solution à cette problématique-là qui affecte tout le monde, évidemment.
Sans entrer dans les détails, on parlera pas du cas de Saint-Michel en particulier, on se rend compte, et il y a plusieurs entreprises qui, en tout cas à ma connaissance, moi, vivent la même situation, c'est que les créanciers sont plutôt gourmands et impatients par les temps qui courent.
Écoutez, je ne sais pas si c'est une question de créancier ou c'est vraiment une question de contexte économique. Hein, rappelons-nous qu'on est dans non seulement on est dans un conflit du bois d'œuvre depuis les années 80 avec les États-Unis, on est dans une relation ou je dirais une guerre commerciale hyper tendue avec les États-Unis. On se le cachera pas, au niveau du secteur forestier, c'est notre principal client. Puis on est vraiment dans une relation de contrainte. C'est plate à dire, c'est un client difficile, mais c'est le plus grand client sur la planète en termes de produits forestiers. On n'aura pas le choix de continuer à exporter des produits là-bas, mais c'est sûr que quand les taxes sur le bois d'œuvre sont rendues à 45%, à un niveau qui n'avait jamais été atteint depuis les années 80, c'est un coup dur pour l'industrie forestière, pour certains industriels, puis je vous dirais pour l'ensemble de la filière, parce qu'ultimement, les revenus qui ne sont plus générés dans la filière parce qu'ils sont versés en taxes à la frontière, ben c'est l'ensemble des autres sous-traitants, fournisseurs, producteurs de bois qui sont aussi impactés par ces mesures-là.
Il y a un discours politique qui est tenu par les temps qui courent, c'est-à-dire de diversifier les marchés, de développer de nouveaux produits. Malheureusement, pour ce qui est du bois, là, ça peut pas aller à l'infini.
Ben exactement. Écoutez, je pense que de ce côté-là, je comprends la logique du gouvernement Canada d'avoir investi pour diversifier les marchés de l'industrie forestière et du bois d'œuvre. Par contre, on sait que si gains il y a, ça va être des gains vraiment marginaux sur les marchés outre-mer. On ne pourra jamais s'affranchir totalement du marché américain. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est le plus grand marché pour expédier notre bois d'œuvre. Il faut juste attendre que crise se passe et que la demande soit en augmentation. Là, ce qu'on constate en ce moment, c'est que la demande de bois d'œuvre, elle faiblit, là, tu sais, de grosso modo, d'à peu près 3 % en 2025. 2026, ça semble être à peu près les mêmes niveaux pour l'instant. Il va falloir attendre une reprise du marché, évidemment, immobilier, de la rénovation au niveau des États-Unis pour s'assurer qu'il y ait une hausse de la demande. À partir du moment où il y aura une hausse de la demande, bien que les taxes vont continuer à faire mal là, à l'industrie forestière canadienne, il va quand même avoir une petite bouée d'air frais, puis peut-être qu'on pourra alors rassurer les créanciers.
Et en terminant, dans la même veine, dans le même discours, on dit de plus en plus acheter québécois, acheter canadien dans l'industrie du bois. Est-ce que c'est vraiment réaliste?
Écoutez, je pense que c'est probablement pour l'industrie forestière, c'est probablement la solution la plus prometteuse. Donc, de venir, on pourrait dire, on ne pourra jamais consommer l'ensemble de notre production forestière, mais on est certainement capable d'augmenter grandement la part de notre production qui reste aux États-Unis et qui ne sera pas soumise à des taxes. Donc, il y a une opportunité là, ça prend des changements, on s'entend, là, de manière assez structurelle, puis changement sociologique, puis une volonté des gens aussi là, d'adhérer, on pourrait dire, à la construction bois en tant que telle, mais c'est pas impossible. Et à mon avis, c'est une solution qui est beaucoup plus porteuse que de vouloir, disons, diversifier les marchés ou pénétrer les marchés ailleurs, qui sont parfois déjà surapprovisionnés. C'est d'autant plus, je me permets un peu là, de réfléchir en terminant aux propriétaires et aux producteurs forestiers. Tout ce conflit du bois d'œuvre là, il est d'autant plus pernicieux dans la mesure que ultimement, ce qui irrite la partie américaine, c'est la manière dont les forêts publiques sont gérées, où le bois des forêts publiques est donné ou vendu à l'industrie forestière. Mais vous avez à côté des dizaines de milliers de producteurs de bois qui approvisionnent l'industrie forestière, qui en tout point s'apparentent aux producteurs de bois américains qui approvisionnent leur propre industrie forestière et qui ultimement sont des victimes collatérales dans ce conflit-là. Parce que ultimement, c'est pas le régime de propriété privée qui est attaqué par les Américains, mais évidemment le régime de propriété publique. Et je pense, en tout cas, je souhaite ardemment que éventuellement, si on trouve un moyen de régler ou de faire une entente sur le bois d'œuvre avec les Américains, qu'on trouve le moyen d'extirper les producteurs forestiers et de les exempter de ce type de situation-là. D'autant plus, je vous dirais que le gouvernement là arrive avec des manières pour venir donner un peu une bouée d'air frais à l'industrie. Mais la problématique, c'est que le gouvernement du Québec, via le projet de loi 11, va arriver avec une manière où est-ce qu'il va complètement réformer la manière qu'on met en marché le bois de la forêt publique. Et on pense à la Fédération qui va avoir des effets vraiment délétères ou pernicieux sur les marchés du bois. Et ça va entrer en concurrence avec les producteurs forestiers. Donc, vraiment, il y a de sérieuses inquiétudes de ce côté-là. Oui, sauver l'industrie forestière, on est pour ça, mais il ne faut pas qu'on transfère le fardeau de la crise sur le dos des producteurs forestiers. Eux aussi doivent trouver le moyen de passer à travers cette crise.
M. Miville, merci beaucoup.
tout le plaisir était pour moi.
C'est Vincent Miville qu'on écoutait. Il est directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. François Morin s'est entretenu avec lui un peu plus tôt. Il est 16h16. Petit mot de circulation pour vous parler de la 25 Nord après la jonction avec la 440. On parle d'un véhicule en panne, voie de droite entravée, ce qui fait que ça devient plutôt lourd là depuis avant Henri Bourassa du côté de Montréal. Dans un moment, il sera question du rond-point du jour à l'Assomption, là, qui est fortement achalandé, peut-être même trop en ce moment.
Bonjour, c'est Kim Lejolier de Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks 2026 avec un taux de financement aussi bas que 0% sur 36 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 31 mai. Gagne 200$ au jeu de la ligne des hauts. Sonia Robillard de Sainte-Béatrix, carte achetée à la boulangerie Sainte-Béatrix. Suzanne Archambault de Saint-Ambroise de Guilder. Une carte procurée au dépanneur au Petit Bourgeois. Elle remporte 4000$ au jeu de la carte pleine. Lucille Prescott de Saint-Félix-de-Valois, grâce à sa carte achetée au Proxy Extra SO. Et 150$ ont été gagnés au jeu de la carte pleine de la deuxième chance par Jacques Frappier de Berthierville, carte procurée au dépanneur F1. Claude Frappier de Saint-Damien, carte achetée au métro Imri. Pauline Payette de Saint-Zénon, qui s'est procurée sa carte chanceuse à la tabagie Saint-Félix de Saint-Félix-de-Valois. Et Émile Leblanc de Saint-Michel-des-Saints, une carte achetée au dépanneur Proxy Extra. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5000$ gagnés avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8$ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. Section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. Appelez-nous pour en discuter. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, éternellement dévouée.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants, à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés, à coups des manches retroussées, d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Coors Light est à 69$, puis la caisse de 48 canettes de Molson Export est à 72$. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 3 juin en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
La page journalière est ouverte jusqu'au 15 octobre à la Pourvoirie, Auberge de la Barrière. Venez vivre des journées mémorables à pêcher la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et la magnifique Golden dans notre superbe lac en pleine nature. Après la pêche, profitez de notre restaurant ouvert tous les jours et de notre belle terrasse pour relaxer et savourer l'été. En famille, entre amis ou entre passionnés de pêche, c'est le moment parfait pour venir décrocher chez nous. Informations et réservations au 450-884-5748 ou aubergelabarrière.com. Pourvoirie Auberge de la Barrière. Après l'aventure, le réconfort.
Lanaudière PM. Transport.
Il est 16h20, partie intégrante de la route verte. Le rendu point du jour à l'Assomption est emprunté là quotidiennement par des dizaines de camions lourds en ce moment là, qui circulent pour transférer des matières qu'on extrait d'un chantier au domaine Papin en direction de la Valtrie. Et il y a une centaine de citoyens qui ont fait part hier soir de leur doléance au maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau. Et d'ailleurs, notre collègue Régent Turgeon s'est rendu sur place et fait le point avec Benoît Laflamme, un résident et un des organisateurs de la rencontre, et le maire Sébastien Nadeau. On écoute l'entretien.
Monsieur Laflamme, vous avez réussi à monopoliser l'attention, à faire déplacer le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, ce soir pour une rencontre qui est importante pour vous puis les résidents du Pointe-au-Sud?
Oui, en fait, ben je prendrais pas le mérite d'avoir monopolisé moi-même tout le monde. C'était une équipe, c'est plusieurs résidents qui sont mis ensemble pour arriver à ce résultat-là.
Okay. Parce qu'il y a des inquiétudes, ils sont vives, on le sent. Le camionnage, là, on en a plein notre casque.
En fait, on a évalué qu'il passe dans les périodes de pointe entre environ 20 camions à l'heure. Des camions chargés, souvent sont chargés aller-retour. 20 camions à l'heure, les jours de semaine, ça commence aux environs 7h30 le matin, puis ça peut aller jusqu'à 19h le soir.
Là, on doit comprendre que s'il passe par le Pointe-au-Sud, c'est que c'est le chemin le plus court entre la récupération du matériel et son point de livraison. Et c'était prévu au contrat, ça, avec la Ville.
Mais en fait, nous, on n'a pas accès à ces contrats-là avec la Ville. C'est la réponse qu'on nous a donnée, par contre, que c'était le chemin le plus court. Par conséquent, comme les municipalités ils prennent les offres les plus basses, bien, c'est ce que ça comprenait dans leur devis.
Et là, au quotidien, vous l'avez dit, il y a pas mal de camions. Et ça, ça a des répercussions. Et elles sont concrètes, là, ces répercussions-là.
En fait, quand on regarde les dommages collatéraux de ça, mis à part le changement sur la qualité de vie des résidents, le bruit, la poussière, les tremblements dans les maisons, puis l'affaissement de la route, qui est en fait une route qui est pas très large, c'est un rang qui est tout petit. Et ici, des belles journées d'été, il peut passer 200 cyclistes dans la même journée. C'est une route qui fait partie de la route verte. Et puis là, c'est certain que avec deux fardiers qui se croisent sur cette route-là, il n'y a pas de place pour un cycliste ou un piéton en même temps. Fait que c'est très, 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 très dangereux. Mais malheureusement, pour des raisons économiques, la Ville ne semble pas prendre ça en considération.
Et là, la Ville a tenté, en tout cas M. Nadeau, a tenté d'être rassurant. Il y a des mesures concrètes là, qu'on veut prendre là, à très court terme.
En fait, ce qu'on a entendu, c'est que les travaux qui sont en cours vont s'échelonner pendant toute la période d'été. Il y a des mesures qui vont être prises, des mesures d'atténuation, je dirais, là, de régulariser la vitesse, peut-être abaisser la vitesse, présence policière, tout ça, mais ouais. Il en demeure pas moins qu'il y a quand même 20 camions à l'heure qui passent. Fait que, il y a des impacts concrets pour tous les résidents, mis à part ça. La qualité de vie, ça se mesure pas nécessairement en argent. Et la Ville, ils comptabilisent pas ces choses-là dans leurs choses.
On semble dire que peut-être que pour des prochains chantiers, on pourrait peut-être changer les façons de faire.
En fait, c'est pas ça qu'on nous a dit. On nous a plutôt dit qu'on pourrait regarder pour voir si ça serait pas possible de changer un peu par où on passe pour les prochains contrats. On nous a pas dit qu'on le ferait.
Monsieur Laflamme, un gros merci. Oh, dernier point. Êtes-vous quand même rassuré, là, le fait que M. Nadeau soit venu expliquer la problématique à ses yeux puis du point de vue de la Ville, puis des conséquences pour les contribuables?
Bien, en fait, je pense que tout le monde est de bonne foi dans cette situation-là. Je suis pas certain qu'on envisage les solutions de la même façon, mais je pense qu'il fallait que cette rencontre-là ait lieu. Fait que rassuré, je vous dirais pas que je suis rassuré vraiment, mais au moins, je suis satisfait d'avoir eu des réponses à des questions.
Il y a une volonté de quand même, à quelque part, atténuer la situation, là.
Oui, l'atténuer à court terme. On pourra s'en reparler plus tard pour la suite.
Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Beaucoup de circulation sur le Pointe-au-Sud et c'est dangereux.
Ben effectivement, c'est un chantier qui touche nos citoyens. Donc, on est en train de réparer un autre quartier. Les entrepreneurs, lorsqu'ils présentent leur contrat, leur offre, ils doivent nous dire où est-ce qu'ils vont transporter les matériaux. Autant ceux qui vont enlever, puis où est-ce qu'ils vont prendre les nouveaux matériaux, que puis nous, on puisse anticiper la circulation. Donc, dans ce cas-là, ici, le chemin le plus court entre le chantier qui nous appartient, et c'était sur le rempoint du jour pour se rendre à destination, parce qu'il y a un agriculteur qui profite de ces dépôts-là. C'est donc, il y a un bénéfice pour eux aussi. Mais donc, c'est de savoir maintenant comment est-ce qu'on fait cohabiter et la circulation des chantiers et la vie citoyenne. Donc, c'est le défi qu'on a.
Justement, le défi, à l'air à se transposer en cauchemar, on semble dire que le Pointe-au-Sud, ça circule rapidement. Il y a des vibrations dans les maisons. Les cyclistes sont en danger, vitesse excessive. Vous avez pris connaissance ce soir là, de la problématique?
Bien sûr, tout à fait. Et nous, ce qu'on va demander, c'est sûr, d'augmenter la présence policière. C'est un rang qui a une vitesse maximale de 60 km/h. Est-ce qu'on pourrait, de façon temporaire, le temps du chantier, baisser cette vitesse-là? C'est la question que je vais poser à mes équipes. Je n'ai pas cette réponse-là. C'est une demande des citoyens. Maintenant, pour ce qui est la sécurité, effectivement, des cyclistes et tout ça, c'est un rang qui est très apprécié des cyclistes. le rond-point du jour sud comme le rond-point du jour nord. Et donc, c'est de s'assurer que les voies sont sécuritaires. Fait que ça va être adressé avec notre comité de sécurité routière.
Les gens semblent dire qu'ils auraient peut-être aimé être consultés avant qu'on aille de l'avant avec soit ce contrat-là ou ses conséquences parce qu'ils en subissent effectivement les effets de ce contrat-là.
Mais vous savez, si on passe pas ici, on passe dans d'autres quartiers. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas un citoyen, peu importe le quartier où il habite, ne souhaite pas avoir ce trafic-là puis cette perte de quiétude-là. On le comprend très bien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nous, ce qu'on va choisir, c'est ce qui nous apparaît le plus logique. C'est le choix des ingénieurs qui nous font une recommandation, conseil. Ensuite de ça, ce qu'il faut regarder, c'est le coût de ces travaux-là. Hein, c'est dans un chantier, plus que le détour est grand, plus que ça coûte cher à la ville, parce que du kilométrage à facturer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Puis ensuite de ça, c'est quoi les impacts sur le long terme?
Là, on semble dire qu'on est à la phase 2 d'un projet qui doit s'étirer jusqu'à la phase 5, jusqu'à l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des façons de peut-être de revoir le prochain contrat qui impliquerait justement le point du jour sud?
Je vais demander à nos ingénieurs voir de quelle façon on peut éviter certains rangs. C'est sûr qu'au début de chaque appel d'offres, on ne sait pas où la terre va être déposée. C'est à l'entrepreneur, dans sa soumission, de proposer un lieu de dépôt. Donc ça, faudrait l'évaluer après. Est-ce qu'on peut exiger de passer par d'autres chemins? Honnêtement, les villes ont tendance à dire, ben si le chantier ne me concerne pas, tu passeras pas chez nous. On fait la même chose avec nos voisins. On veut tout protéger nos routes, protéger la qualité de vie de nos citoyens. Maintenant, est-ce qu'on les fait passer vers l'autoroute? Mais ça, faut s'attendre que comme une communauté, il y a un coût à tout ça. Alors ça va être évalué le coût versus bénéfice. Puis qu'est-ce qui est le plus logique de faire?
Avez-vous l'impression quand même que vous avez été en mesure de rassurer les gens qui étaient vraiment là, inquiets de la situation actuelle?
Ben, je pense que je ne peux pas rassurer à 100%. Je peux pas dire qu'en sortant d'ici, les gens sont tous heureux. Je pense qu'il y a une meilleure compréhension des deux côtés. Puis il y a des pistes de solutions qu'on peut améliorer sur du court terme. Puis ça, c'est des choses qu'on prend la responsabilité de se dire de quelle façon on peut améliorer les choses le plus vite possible.
Merci beaucoup.
Merci.
On vient d'entendre le maire Sébastien Nadeau de l'Assomption et juste auparavant, Benoît Laflamme, un résident, un organisateur d'une rencontre qui avait lieu hier soir avec le maire Nadeau là, concernant justement cette trop forte circulation de véhicules lourds là, sur le rond-point du jour sud à l'Assomption.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, ça se demeure quand même assez difficile, métropolitaine, pour Charles de Gaulle. C'est dense depuis le boulevard du Roi-René. Et ce, jusqu'à Henri Bourassa, c'est qu'on signale fermeture de une voie sur trois à la hauteur d'Henri Bourassa sur la métropolitaine, donc en direction est. J'essaie de voir exactement ce qui se passe dans le secteur. Véhicule en panne, donc la voie de gauche est entravée. Voilà. Après Henri Bourassa, ben ça va bien. On traverse aisément la rivière des Prairies pour la suite des choses. Secteur Repentigny, oui, ça va bien. La 341 montée de l'Épiphanie, assez dense entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont Le Gardeur, oh là là, c'est assez difficile, là. Très lent depuis environ 1 km sur Notre-Dame et 500 mètres sur Sherbrooke. Et ça demeure lent pour franchir la rivière des Prairies là, jusqu'à l'île Bourdon, un petit peu avant Repentigny. 25 Nord maintenant, c'est dense depuis Henri Bourassa et ce jusqu'à boulevard des Mille-Îles, Laval, là, c'est dense sur toute la longueur là, de l'île Jésus. Et secteur Île-Saint-Jean, Terrebonne-Mascouche, bon, c'est une bonne nouvelle, ça va bien de ce côté-là. Le pont Sophie-Masson, c'est lent à l'approche et lent également pour franchir la rivière des Mille-Îles. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction est, c'est depuis la montée des Pionniers. Direction ouest, c'est dense sur environ 1 km, secteur de la montée du Mai. Oui, les nouvelles dans un instant.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 99$ plus taxes par semaine sans aucun comptant initial chez Joliette Nissan.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
Besoin d'un équipement compact, fiable et prêt à travailler? Avec VEC Location, vous pouvez louer un tracteur John Deere 1025R ou une pelle mécanique John Deere 17G pour vos travaux résidentiels, agricoles, d'aménagement, d'excavation légère ou de chantier. Profitez d'un équipement performant, bien entretenu, facile à réserver et prêt à livrer du rendement quand vous en avez besoin. Réservez dès maintenant au www.veclocation.com. VEC Location Saint-Cuthbert, 450-912-1291.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, le bœuf haché mi-maigre est à 4,73 la livre ou 10,43 le kilo, puis le fromage Black Diamond 400 grammes, choix varié, est à 3,99. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 3 juin en magasin en ligne, détails au superc.ca.
L'actualité de ce mardi 2 juin en manchette. Entente sur le transport collectif entre Ottawa et Québec. Impact nombreux à la fermeture de la série de Saint-Michel-des-Saints. Et le Canada veut renouveler l'entente de libre-échange pour 16 ans. Tout d'abord, Pierre Jubinville, des milliards pour le transport au Québec.
10 milliards sur 10 ans. Ces 10 milliards sont contenus dans 5 ententes. De façon plus détaillée, le fédéral va contribuer 6 milliards à la mise à niveau des infrastructures en transport collectif. Une enveloppe d'un milliard est aussi offerte pour des projets de santé, rien à Joliette cependant. 2,7 milliards seront dépensés pour innover les cégeps et les universités, ainsi que pour la construction de nouvelles résidences pour étudiants. Enfin, Ottawa accorde 459 millions au gouvernement québécois pour le développement de 11 projets électriques. Le premier ministre, Mark Carney, a souligné les bonnes relations avec son homologue Christine Fréchette.
Madame la Première ministre Fréchette et moi, nous sommes rencontrés pour la première fois en mi-avril. Nous avons abordé de nombreuses priorités, mais nous sommes sans cesse revenus sur une mission commune, la nécessité de bâtir. Bâtir en grand, bâtir avec audace, bâtir maintenant et bâtir pour le Québec.
Et on aura l'occasion de revenir sur le sujet tout à l'heure avec Jacques Plante. Et par ailleurs, Pierre, Québec reçoit la liste d'épicerie des constructeurs de routes.
Et puisqu'il y a, il y a beaucoup d'argent sur la table, les constructeurs ont présenté leur liste d'épicerie aux partis politiques. Et pour eux, il s'agit de mieux planifier, mieux travailler. Ça donnera de plus belles routes, croit-on.
Le regroupement qui compte des constructeurs, des spécialistes et le CAA affirme que Québec doit donner un coup de barre dans sa planification. Au premier chef, il faut créer un fonds d'entretien pour chacune des infrastructures. La porte-parole Caroline Amirault estime que si on prévient les nids de poules, ils arriveront bien plus tard.
Quand on est rendu au stade d'un nid de poules, c'est parce que là, on a passé cette étape-là d'entretenir notre route.
Il est aussi impératif de faire de la place à la technologie. Actuellement, les chercheurs trouvent de nouvelles solutions plus durables, mais elles restent sur les tablettes.
Dans l'appel d'offres, ben, t'as la recette de ce qu'on veut comme matériau. Et c'est ça qui ne change pas.
La récupération des matériaux est aussi un élément amélioré puisque la moyenne canadienne est d'environ 25 % alors qu'ici, seulement 14 % des vieux matériaux se retrouvent dans les nouveaux projets. Les idées sont donc lancées au parti.
Reste à voir s'ils vont avoir le courage politique de changer les façons de faire.
Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Et il y a plusieurs entreprises de bois d'œuvre, Pierre, qui surveillent le dossier de la série de Saint-Michel-des-Saints.
Oui, puisque la décision de la série de se placer sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers suscite de l'inquiétude. En fait, c'est l'incertitude qui prévaut dans toute l'industrie du bois d'œuvre. Les fournisseurs sont aussi affectés par la perte temporaire ou, selon le pire des cas, la perte permanente de leur marché. Vincent Miville est directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec.
c'est tout autant dramatique, je vous dirais, pour des propriétaires forestiers, des producteurs de bois qui aménagent leur boisé, qui récoltent du bois, qui génèrent des revenus avec leur boisé et qui, du jour au lendemain, se trouvent sans marché et même parfois sans avec des revenus qui ne seront plus générés. Donc, c'est hyper inquiétant pour tout le monde.
Il y a le Canada qui veut renouveler l'entente de libre-échange pour 16 ans.
Oui, le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, a envoyé une lettre en ce sens aux deux autres pays. Il est à Washington, d'ailleurs, aujourd'hui, et il espère rencontrer les personnes influentes pour faire avancer le dossier.
Il y a Restaurant Canada qui réclame, c'est intéressant, l'abolition des taxes sur les repas.
Oui, la pandémie a durement affecté le secteur de la restauration et pour cette raison, on suggère de ne plus imposer de taxes sur les factures des restaurants. Cette mesure s'inspire du précédent crédit de la TPS sur certains aliments que le gouvernement Trudeau avait mis en place au début de 2024 pour 2 mois. La vice-présidente Jeannick Cormier estime que ce serait une formule gagnante tant pour la restauration que pour la question d'abordabilité chez les Québécois.
Et à ce moment-là, qui est le temps habituellement le plus mort de l'année pour le restaurant, à l'exception à Saint-Valentin, bien entendu, on avait ajouté 23 000 emplois dans notre industrie. Les faillites avaient... le nombre de faillites en restauration, pardon, avait diminué considérablement comparativement à l'année précédente. Et ça a fait vraiment un boost à une industrie au moment qu'il en avait le plus de besoins.
Charmant accent acadien de Mme Cormier. Oui. On aura l'occasion d'ailleurs de l'entendre un petit peu plus tard au cours de l'émission. Là, Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec elle. Et finalement, Pierre, 2500 ménages qui auront besoin d'aide pour se loger le 1er juillet.
En fait, 2573 ménages auront besoin de cette aide à moins d'un mois du 1er juillet. Dans la notière, on parle de 226 ménages qui sont en demande. Il va sans dire que les services d'aide à la recherche de logement sont fort sollicités.
Merci Pierre Jubinville, il est 16h37.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Dans son discours annuel devant la Chambre de commerce des Moulins, le maire Guillaume Tremblay a parlé de sa vision de l'avenir pour la municipalité. Il a beaucoup été question du développement économique, également d'infrastructures et du projet du parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche qui a franchi une autre étape et Régent Turgeon lui a parlé.
Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec. Quand on s'adresse à un parterre de gens d'affaires comme aujourd'hui, on vient partager une vision du développement économique. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est important, une vision.
Oui, exactement. Donc, on a démontré que la ville de Mascouche, on travaille sur une vision long terme, encore une fois. On a parlé de projets porteurs pour la ville, comme par exemple le projet qui va avoir un impact vraiment important pour les commerçants locaux, nos petits commerces de proximité. Ensuite, le projet du domaine seigneurial. Donc, on va se faire un projet mascouchois. Puis, on a annoncé une annonce importante, c'est que la ville de Mascouche a des marges de manœuvre. On est allé chercher 10 millions dans notre... Donc, on a 10 millions pour payer au comptant ce projet-là. On a 1 million de la CMM. Le reste, on est ouvert encore d'avoir des subventions de la part des gouvernements pour nous accompagner dans un projet qui est aussi important. Mais sinon, c'est sûr qu'on le fait.
On doit savoir que vous voulez en faire un site unique, là, un parc assez exceptionnel dans la grande région de Montréal.
Exactement, un endroit récréotouristique majeur. Puis c'est un endroit qui est déjà chéri par les Mascouchois, mais je pense que l'ensemble de la population du Grand Montréal vont l'aimer, vont l'apprécier. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où on va parler de patrimoine, où on va parler d'accès à l'eau, mais on va aussi parler beaucoup de sentiers, parcs équestres. Donc je pense que c'est vraiment différent. Puis on n'est pas loin du Grand Montréal, donc les gens vont pouvoir venir utiliser. On est le poumon du Grand Montréal, puis on va pouvoir l'utiliser.
Mais ça fait déjà 3, 4, 5 ans qu'on parle de ce projet-là, M. Tremblay. Ça a piétiné au début. Est-ce qu'on sent que là, on va vers l'avant définitivement?
Oui, on le fait, le projet.
Vous avez parlé aussi d'infrastructure. C'est le mot à la mode là, dans les municipalités. Les infrastructures, on attend une annonce du gouvernement prochainement. On y croit aux sous qu'on doit investir là-dedans?
Oui, il faut au niveau de la bretelle, parce que pour nous, ça va vraiment désenclaver. Ça va aider à améliorer la circulation locale. La question à se poser au Québec, c'est que ça a pris quasiment entre 4 et 5 ans faire ce projet-là. Puis là, je regarde la ville, je regarde le gouvernement. on est les deux dans le tort. Oui, des fois, il y a des dédales administratifs, mais est-ce que c'est normal qu'au Québec, un projet prenne 5 ans? Moi, je pense que non. Il faut améliorer nos façons de faire, autant pour les villes que pour le gouvernement. Il faut aller beaucoup plus rapidement sur des projets parce que ça met en péril justement tout le développement économique des régions. Donc, assurons-nous d'aller mieux. Mais là, on est en appel d'offres. C'est concret, c'est réel. Puis ça va être livré bientôt.
Avez-vous l'impression d'avoir vraiment cette année là, l'oreille du nouveau ministre des Affaires municipales?
Ben, on le souhaite ardemment. Maintenant, on va voir. Il est arrivé en place. On souhaite que ça fonctionne bien. On va donner la chance au coureur.
Dans le contexte des changements climatiques et parlant d'infrastructures, il y a une mesure que votre administration a prise. On s'est mis de côté 100 000 $ par année pour des interventions préventives. Si je suis un citoyen de Mascouche, ça voudrait dire quoi pour moi?
Bon, ça veut dire que la Ville met à la disposition 100 000 $ pour toute la population de Mascouche. Premier arrivé, premier servi. Mais par exemple, moi, je suis un citoyen, je vais faire venir un plombier à la maison. Il va regarder mon clapet anti-roto, il va regarder est-ce que mon drainage est correct. Puis à terme, bien, la Ville rembourserait une proportion de ce qui a été payé par le citoyen. Nous, on pense qu'il faut que nos résidences soient en mesure, par exemple, au niveau de l'eau, les inondations qu'on a vécues avec Déby en 2024. Mais c'est des façons de faire pour améliorer justement la résilience climatique. Puis dans ce plan-là que je vous invite à lire, aussi de regarder, vous allez tout avoir les mesures qui pourront être prises par la Ville de Mascouche dans son développement, comment mieux faire, par exemple, le bassin de rétention. Donc, il y a plein de politiques à l'intérieur de tout ça qui sont intéressantes.
Vous avez lancé l'idée d'un complexe hôtelier à Mascouche. C'est un projet dans lequel on est prêt à investir. Il y a une demande pour ça?
Oui, il y a une demande pour ça. Puis la Ville, on a un terrain qui est zoné, un terrain qui peut partir dès demain matin. Mais on a aussi mis de l'avant des avantages fiscaux au niveau municipal pour attirer ce type d'entreprise-là. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que la loi nous le permet. D'ailleurs, c'est pas pour rien au niveau touristique. On a l'arrivée d'un hôtel. L'hôtel arrive, bien, ça va faire vivre nos petits commerces de proximité. Les gens vont pouvoir aller au domaine seigneurial, venir dormir à Mascouche. Du commerce aussi d'affaires vont pouvoir utiliser. Ça va faire rouler nos restaurants. Donc, on voit ça de bon augure.
Dernier point, développement économique. On sait que de Centre au Parc, il y a toute fin pratique complet. Il y a encore du terrain à développer à Mascouche.
On a encore environ 2 millions de pieds carrés qui, demain matin, peuvent partir, donc peuvent se développer. Maintenant que c'est dit, le 2 millions de pieds carrés, à la vitesse qu'on a vu le Centre au Parc aller, ça va, t'sais, un an ou deux, on n'aura possiblement plus de terrain. Maintenant, on est déjà en la planification, puis j'ai pris l'engagement ici devant les gens d'affaires de l'année prochaine de partager cette vision des terrains industriels. Il faut savoir qu'il en reste encore un peu de terrain de développement à Mascouche, mais il va falloir aussi demander penser vraiment à long terme, peut-être les 10, 15, 20 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire. Mais on a encore un peu de terrain à développer pour les prochaines années.
Est-ce qu'à l'image de Terrebonne, Mascouche peut se dire sous pression, justement pour développer crise du logement, axe routier et tout ça?
Bien, on est sous pression comme toutes les villes du Québec, j'ai le goût de vous partager. Maintenant, bien, il manque de logements, il faut continuer à se développer des villes, là, parce que si tu continues pas à te développer, bien, c'est les villes à côté qui se développent, puis ils vont passer. Moi, je le dis toujours, en heure de pointe à Mascouche, on a 3 véhicules sur 5 qui n'habitent pas Mascouche. Ils habitent Saint-Lin, Saint-Calix, La Plaine. Je veux dire, ils vont continuer à se développer, ces villes-là. Donc, il faut continuer à se développer, mais je pense en tentant de l'améliorer, comme avec l'arrivée de la bretelle de la Ciscaire.
Bel avenir pour Mascouche.
Bel avenir pour la région de la Naudière, donc pour CFNJ.
Ben, merci beaucoup. C'était le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, avec qui Régent Turgeon a eu l'occasion de s'entretenir. Il est 16h44. Dans un moment, Jacques Plante.
Bonjour, c'est Kim Lejolie de Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement $99 plus taxes par semaine sans aucun comptant initial chez Joliette Nissan.
Votre entreprise est-elle prête pour une cyberattaque? Cela peut coûter très cher. Avec Fleet Info, protégez vos données, vos systèmes et votre entreprise grâce à des solutions de cybersécurité fiables et surveillées. Ne prenez pas de risques. Sécurisez avec Fleet Info, expert TI.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps.
comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Entrepreneurs et contracteurs, Fenêtrage Saint-Ambroise vous attend pour ses journées portes ouvertes en collaboration avec Fenplast, votre destination de choix pour les portes et fenêtres au meilleur rapport qualité-prix. Le vendredi 5 juin, de 8h à 17h, venez discuter entre pros avec nos nombreux fournisseurs et découvrir nos nouveautés, dont la fenêtre Premia de Fenplast. Dîner barbecue, rafraîchissement en promotion et prix de présence. Et le lendemain, tout le monde est invité à la fête pour explorer notre centre de liquidation et découvrir notre nouvelle salle de montre. Les 5 et 6 juin, rendez-vous chez Fenêtrage Saint-Ambroise, 950 route 343 à Saint-Ambroise de Kildare.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Salut Claude, salut tout le monde.
Ottawa qui envoie 10 milliards de dollars en 10 ans au Québec pour le transport en commun et les infrastructures.
Oui, c'est ça. Il était comme temps qu'il se passe quelque chose, miracle tout d'un coup.
Ah oui, à l'approche des élections. Hein?
Oui, mais ça sent quelque chose. Hein? Mm-hmm. Parce que s'il faut rappeler la petite histoire avec ce dont tu viens de faire état, là, notamment les projets en transport et infrastructures, ça remonte à l'ère de Justin Trudeau, 2024. On est en 2026. C'est la tête dure du PM de l'époque, François Legault, et des gens de la CAQ au gouvernement, qui, eux, ne voulaient pas, parce que toutes les autres provinces au Canada là, sont allées chercher la cagnotte qu'il avait droit.
Oui, oui, oui.
Penses-tu qu'Ottawa, que ce soit Trudeau ou Carney qui est là, qui disait hey, « il m'a mis à genoux devant eux autres au Québec, là, ça dort d'un coffre, il y a un petit peu d'intérêt là-dessus, mm-hmm. ils viendront le chercher ou pas ». Ça s'est discuté je ne sais pas combien de fois. On disait souvent, et là, on n'a pas les détails, là, même si Mme Fréchette, la première ministre, a dit les conditions respectent la juridiction du Québec. À l'époque, ce qu'on véhiculait, c'est que les critères que nous imposait Ottawa n'étaient pas satisfaisants pour le Québec. On jouait là-dessus.
Oui, pour François Legault.
Exactement. Là, tout d'un coup, miracle, Claude, il y a une rencontre qui est faite aujourd'hui. Et là, je sais pas.
L'argent sort.
Ils ont slacké les conditions à Ottawa.
Mm-hmm.
Merci au sondage au Québec de dire que possiblement, on a un gouvernement du Parti québécois en attente.
Ah, voilà.
Ça fait
voilà.
délier les langues et les bourses.
D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit aujourd'hui.
Il s'est pété bretelle avec raison. Hein?
Il dit que la machine fédérale travaille pour prévenir l'élection d'un gouvernement indépendantiste à Québec. C'est pas anodin que la première ministre Christine Fréchette réussi à conclure une entente avec Ottawa à quelques mois des prochaines élections. Là.
Écoute, c'eût été n'importe qui, OK, que le titre de premier ministre du Québec, peu importe le parti, peu importe le sexe de la personne, Carney ouvre son chéquier puis il fait un chèque.
Oui.
Ça, c'est coulé dans le béton. Moi, ils me feront pas à croire que tout d'un coup, on a des bonnes ententes, on veut négocier, on laisse tomber certains critères, on s'entend là, champ de juridiction provinciale, fédérale, parce que...
Pourrais-tu t'attendre à ce qu'ils fassent des petits cadeaux à l'Alberta, là, parce qu'il y a un référendum qui s'en vient l'automne prochain en Alberta? Là.
Ben ça, il va peut-être rester collé un peu, quoique là, dans son clan à lui, je parle de Carney, mm-hmm. il y a un petit peu de bisbille. Hein. On essaie là de garder ça au caucus, mais à un moment donné, s'il va trop vite avec Mme Smith, j'ai l'impression que la marmite là, sur le couvercle du caucus...
Daniel Smith, la première ministre
d'Alberta. La première ministre d'Alberta. S'il va un peu trop loin avec elle puis qu'elle essaie de vendre du nanan encore à ce niveau-là, l'impression qu'il va de la misère à tenir certaines langues dans son propre caucus. On reste à voir là-dessus. Mm-hmm. Mais là, ce qu'on veut donner comme image, moi, je regarde ça aujourd'hui, tant mieux, là, 10 milliards sur 10 ans. Même s'ils l'ont pas présentement, tant mieux.
Quand on parle d'infrastructure, on parle, entre autres, d'hôpitaux, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, qui tient de la broche.
Charles Lemoyne, celle de Chicoutimi. On dit là-dedans, dans la ventilation, 2,7 milliards, toujours sur 10 ans. Les conduites d'eau, université, les cégeps. 10 ans, c'est long quand même. Il y a des cabanes qui ont le temps de tomber à terre, là, parce qu'il y en a qui sont désuètes.
Ouais.
Mais c'est bien le fun là, de négocier. Comme je disais, ça aurait pu être n'importe qui est là. Vous envoyez Youpi là, comme PM, puis Carney signe avec. Parce que la seule chose, Claude, qu'on veut faire ressortir aujourd'hui de ça, c'est que c'est donc correct la bonne entente entre Québec et Ottawa.
Mm-hmm.
Point final.
C'est ça.
C'est une pause politique qu'on a déjà vue, on a déjà joué dans ce film-là. Alors, tout le monde va essayer de tirer l'épingle de son jeu en disant, en se pétant les bretelles. Mais c'est, comme je vous disais tantôt, merci aux sondages qui disent qu'actuellement, selon les sondages toujours, là, j'ai pas de boule de cristal, mais qu'on a un gouvernement du Parti québécois en attente qui, lui, parle d'un référendum. Et ça, pour Ottawa, c'est de la mauvaise musique à leurs oreilles.
Et pendant ce temps-là, ben, Christine Fréchette et Mark Carney marchent main dans la main.
Ben oui, il n'y a pas le choix de marcher avec elle.
C'est l'amour fou, quoi.
Ben, c'est comme je te dis, ça aurait été Youpi, il aurait fait pareil.
Oui.
Tu sais, il n'y a pas le choix d'être comme ça, là. Je remarquais, il y a quelques commentaires qui sont sortis par rapport à cette annonce-là.
L'opposition, oui.
Cet après-midi, M. Milliard qui est d'accord avec ça, évidemment. Ben,
on peut l'écouter, Charles Milliard, justement.
Ben oui, donc.
C'est une bonne nouvelle pour les Québécois. C'est de l'argent dont on a besoin pour nos transports collectifs, nos infrastructures. Mais je vais pas non plus féliciter Mme Fréchette d'être la dirigeante de la dernière province à signer une entente avec le gouvernement fédéral. C'est de l'argent qui, pour le tramway de Québec, à titre d'exemple, est attendu depuis 2019. Et qui était au gouvernement en 2019? La coalition Avenir Québec.
Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. La manière que c'est analysé, personne n'a tort là-dessus, mais encore une fois. Et là, c'est de voir comment cet argent-là, je le disais tantôt, va être ventilé par rapport à l'année. 10 ans, c'est long en tabarnouche, 10 ans, là. Mais de voir ce qui va entrer, on verra bien à l'époque.
10 milliards en 10 ans, si on fait le calcul rapide, ça fait 1 milliard par année.
Oui, c'est ça. On va l'envoyer où, là?
Puis le tramway à Québec, ça va coûter très, très cher, là.
Oui. Puis il faut pas oublier la ligne de métro du côté de Montréal. Puis après ça, il y a beaucoup de municipalités.
La ligne bleue, oui.
La ligne bleue. Il y a beaucoup de municipalités qui ont des problèmes, au niveau de la Caduc, des égouts.
Montréal, la première. Oui.
Transport en commun, il n'y a pas juste Montréal et Québec. Là. Il y a d'autres grandes villes aussi qui avaient demandé à Mme Guilbeault, à l'époque, un petit coup de pouce là, pour le financement. Alors, le 10 000 est bienvenu, mais le 10 milliards, c'est-à-dire, mais il va être dépensé assez rapidement.
Alors, ça sent les élections s'en viennent de cet automne. Merci beaucoup, Jacques.
Oui, monsieur. Salut, Claude.
Lanaudière PM, économie.
Ça, c'est une nouvelle intéressante. Vous vous souvenez que la pandémie a vraiment difficilement et durement affecté là, le secteur de la restauration. Et il y a Restaurants Canada qui suggère de ne plus imposer la taxe sur les factures de restaurants, mesure qui s'inspire du précédent crédit de la TPS là, sur certains aliments que le gouvernement Trudeau avait mis en place en 2024 là, pour une période de 2 mois, histoire de faire respirer un petit peu le milieu de la restauration. Et Marie-Pierre Poulin a eu l'occasion de s'entretenir avec la vice-présidente de Restaurants Canada, Jannick Cormier.
Ben, en fait, on a eu un petit test avec ça il y a un an et demi, alors que le gouvernement Trudeau, de l'époque, avait enlevé les taxes sur les grands restaurants entre le 15 décembre 2024 et le 15 de février 2025. Et à ce moment-là, qui est le temps habituellement le plus mort de l'année pour le restaurant, à l'exception à Saint-Valentin, bien entendu, on avait ajouté 23 000 emplois dans notre industrie. Les faillites le nombre de faillites en restauration, pardon, avait diminué considérablement comparativement à l'année précédente. Et ça a fait vraiment un boost à une industrie au moment qu'on avait le plus de besoins. Vous savez, ça fait depuis le début de la pandémie que les restaurants peinent à joindre les deux bouts, un peu comme les Canadiens d'ailleurs. Et donc, on pense qu'enlever les taxes sur la nourriture, peu importe de quel format on l'achète et où qu'on l'achète, serait une formule gagnante tant pour la restauration que tant pour la question d'abordabilité chez les Québécois.
Mais les restaurateurs sont quand même mitigés face à cette recommandation-là, non?
Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre association, ça fait depuis le congé de taxes fédérales qu'on demande ça pour tous les paliers de gouvernement, tant provincial qu'au fédéral, parce que c'est à la fin de la journée, il faut vraiment se questionner sur pourquoi est-ce qu'on taxe ce qu'on mange. Parce que vous savez, la majorité des repas en restaurant, quand on dit qu'il y a 23 millions de fois par jour les Canadiens mangent en restaurant, on parle du café bagel le matin, on parle du sandwich à l'heure du dîner. C'est devenu vraiment partie de la vie quotidienne. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est pénalisé pour manger en fin de compte? Donc, c'est pourquoi on demande vraiment que tous les paliers de gouvernement enlèvent les taxes sur les repas en restaurant.
Et vous parliez qu'il y avait un avantage aussi pour les clients. Ça représenterait à peu près combien d'économies, mettons?
Oui, donc pour les clients, ça serait à peu près 20 milliards à l'échelle nationale que les Canadiens garderaient dans leur poche. Ça serait extrêmement bénéfique, surtout quand on parle, tu sais, on parle vraiment, là, les gens, ils vont au restaurant tous les jours. Ils réalisent peut-être pas, ils considèrent peut-être pas leur sandwich, leur thé matin puis leur café comme une sortie au restaurant, mais c'en est une. Puis ils sont taxés là-dessus. La pizza avant la partie de soccer en famille, on est taxé là-dessus. Et donc, pour nous, c'est vraiment une question, si on veut aider une industrie qui en a besoin, aider des emplois, c'est 1,2 million de Canadiens, c'est plus de 265 000 Québécois qui travaillent en restauration. Il faut absolument conserver ces emplois-là. Il faut conserver le service aux Canadiens et aux Québécois. Et ici, que les Canadiens et les Québécois voient des mesures concrètes en termes d'abordabilité. Et donc, qu'ils voient qu'ils ne payent plus leur taxe de vente sur leur repas en restaurant, c'est des économies qu'ils vont avoir dans leur portefeuille. C'est des économies réelles.
Et donc, vous pensez que ça va être bénéfique, que ça va attirer plus de clients peut-être aussi?
Oui, plus de clients, encourager que les gens stimulent l'économie locale en restauration. Au Québec, ça représente une économie, la restauration représente 24 milliards de dollars annuellement. C'est pas rien. Et comme j'ai dit, c'est plus de 265 000 emplois qu'il faut conserver. Il faut aussi penser à protéger le produit touristique de la province. C'est qu'on veut avoir plus de tourisme et on veut avoir plus de sous de cette façon-là. Il faut être capable de les accueillir. Puis ça veut dire la restauration. Et donc, être capable de préserver ces emplois-là, de garder les portes de restaurants ouvertes, ça bénéficie à tous, c'est sûr. Et en enlevant la taxe, ça bénéficie aussi aux consommateurs. Donc, c'est un win-win, dans le fond.
Et comment le gouvernement de Mme Fréchette a perçu cette recommandation-là? Est-ce que vous avez eu des réponses ou pas encore?
On n'a pas encore de réponses, non. C'est sûr que c'est une conversation qu'on veut avoir avec eux le plus rapidement que possible. C'est une conversation qu'on a à l'échelle fédérale aussi, parce que depuis, comme je vous le dis, depuis le congé de taxes de l'année dernière, c'est quelque chose qui est sujet de l'heure, mettons. Et donc, c'est des conversations qu'on planifie continuer d'avoir. Qu'on aura l'occasion de les avoir.
Voilà, c'était Jannick Cormier, elle est vice-présidente de Restaurants Canada. On veut donc éliminer toutes les taxes sur les repas. Ce serait une bonne chose. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec elle. Je remercie nos collaborateurs, Marie-Pierre, également François Morin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon et Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il y a Nicolas Bellemare qui sera là dans un moment pour vous présenter le 5 à 7 trad à CFNJ. Et on se retrouve demain 16h pour une autre édition de l'Anneau d'IRPM. Bonne soirée, bye bye.